Ivanhoé, chapitre 20. Après 3 heures de marche, les domestiques de Cédric, avec leur guide mystérieux, arrivèrent dans une petite clairière de la forêt, au centre de laquelle était un chêne gigantesque, étendant ses branches tortueuses dans toutes les directions. Au pied de cet arbre, 4 ou 5 yeomen étaient couchés sur la terre, tandis qu'un autre, placé en sentinelle, marchait, çà et là, dans le rayon de la lune. En entendant le bruit des pas qui se rapprochaient, cette sentinelle donna l'alarme, et les dormeurs se dressèrent aussitôt sur leurs pieds et bandèrent leurs arcs. 6 flèches placées sur la corde furent ajustées vers l'endroit où se trouvaient les voyageurs, quand, leur guide ayant été reconnu, ils le saluèrent avec tous les signes du respect et de l'attachement, de sorte que toute crainte d'une mauvaise réception disparut aussitôt. « Où est le meunier ?» fut la première question de Locksley. « Sur la route de Rotterdam. »« Avec combien d'hommes ?» demanda le chef, car il paraissait avoir ce titre. « Avec 6 hommes et grand espoir de butin, s'il plaît à Saint-Nicolas. »« Religieusement parlé, » dit Locksley. « Où est Alan Adail ?» « Il marche sur Walting Street pour surveiller le prière de Jorvaux. »«
Cela est bien avisé aussi, » dit le capitaine.
« Et où est le frère ?»«
Dans sa cellule. »«
Je vais m'y rendre, » dit Locksley. « Dispersez-vous et rassemblez vos camarades. Réunissez le plus de monde que vous pourrez, car il y a du gibier levé. Il faut le poursuivre sans relâche, et il montrera les dents. Attendez-moi ici au point du jour. Mais... « Un moment, » ajouta-t-il, « j'oublie le plus essentiel, que 2 d'entre vous prennent vite la route de Torquilston, le château de Front de Bœuf. Une bande d'étourneaux portant les mêmes habits que nous y transporte des prisonniers. Veillez bien sur eux, car même s'ils atteignaient le château avant que nous eussions réuni nos forces, il irait de notre honneur de les punir, et nous en trouverions bien les moyens. Surveillez-les donc très strictement. » Et détachez un de vos camarades, le plus leste à la course, pour apporter des nouvelles de Yeomen qui se trouve dans le voisinage. » Ils promirent une entière obéissance et partirent avec empressement pour exécuter leurs différentes commissions. Pendant ce temps, leur chef et ses 2 compagnons, qui maintenant le regardaient avec infiniment de respect, poursuivirent leur chemin vers la chapelle de Copmanhurst. Ayant atteint la petite clairière éclairée par la lune, ils eurent devant eux la chapelle révérée, quoiqu'en ruine, et le grossier ermitage qui convenait si bien à la dévotion ascétique du moine qui l'habitait. Alors Wamba dit tout bas à Goethe : « Si c'est ici l'habitation d'un voleur, il justifie le vieux proverbe : plus on est près de l'église, plus on est loin de Dieu. Et par ma crête de coq, ajouta-t-il, je pense qu'il en est ainsi. Écoutez seulement ce noir sanctus qui se chante à l'ermitage. » En effet, l'anachorète et son commensal entonnaient, en donnant toute l'extension possible à leurs puissants poumons, une vieille chanson bachique dont voici le refrain. « Allons, passe-moi le pot brun, joyeux serviteur. Allons, passe-moi le pot brun, ô joyeux Jenkin. « J'aperçois un manon qui s'enivre. Allons, passe-moi le pot brun. » «
Ce n'est pas mal chanté, » dit Wamba, qui avait risqué quelques notes à lui pour soutenir le cœur. « Mais qui, au nom des saints, se serait jamais attendu à entendre un chant si joyeux sortir à minuit de la cellule d'un ermite ?»«
Ma foi, moi, » dit Goethe. Car le gentil clerc de Copmanhurst est un homme connu, c'est lui qui tue la moitié des daims qu'on braconne dans ses environs. On dit que le garde s'est plaint à son supérieur, et que ce moine sera dépouillé de son froc et de sa calotte s'il ne se conduit pas mieux. » Tout en parlant ainsi, les coups vigoureux et réitérés de Locksley finirent par interrompre l'anachorète et son convive.
« Par les grains de mon chapelet !»
dit l'ermite, s'arrêtant court sur une note très sonore. « Voici encore des voyageurs attardés qui arrivent.
Je ne voudrais pas, pour l'honneur de mon froc, qu'on me trouvât dans ce bel exercice. Tous les hommes ont leurs ennemis, brave sire fainéant, et il y en a d'assez malicieux pour transformer la franche hospitalité que je vous offre, à vous, voyageurs fatigués, pendant 3 petites heures, en ivrognerie et en débauche, vice aussi contraire à mon état qu'à mon caractère. Les vils calomniateurs, répliqua le chevalier, je voudrais avoir à les châtier. Cependant, pieux clair, chacun de nous a ses ennemis, et il y en a dans ce pays même à qui j'aimerais mieux parler à travers la visière de mon casque que la tête nue. En ce cas, mets ton pot de fer sur ta tête, ami fainéant, aussi promptement que la nature le permettra, dit l'ermite, pendant que je vais serrer ces pots d'étain, dont le contenu travaille assez agréablement ma pauvre tête. Et pour amoindrir ce bruit, car à la vérité je suis quelque peu étourdi, entonne l'air que tu m'entendras chanter, sans t'inquiéter des paroles, car je les connais à peine moi-même. » En disant cela, il attaqua d'une voix de tonnerre le « De profundis clamavi », et à l'aide de ce bruit, il put serrer les reliefs de leur banquet. Tandis que le chevalier, riant de grand cœur et s'armant en même temps, accompagnait le chant de son hôte de sa voix, autant que le rire le lui permettait. « Quelle matine diabolique, dites-vous, à cette heure ?» dit une voix du dehors. « Que le ciel vous pardonne, sire voyageur, dit l'ermite, que son propre bruit et peut-être ses libations nocturnes empêchaient de reconnaître des accents qui lui étaient familiers. « Que le ciel vous pardonne, continuez votre chemin, au nom de Dieu et de Saint Dunstan, et n'interrompez pas mes dévotions et celles de mon saint frère. » « Fou de prêtre !» répondit la voix du dehors. « Ouvrez à Locksley !»«
Tout est bien, tout est bien !» dit l'ermite à son compagnon. « Mais qui est-ce ? » dit le chevalier noir. « Et il m'importe beaucoup de le savoir. »«
Qui c'est ? » répondit l'ermite.
« Je dis que c'est un ami. »«
Mais quel ami ? » répondit le chevalier. « Il peut être ton ami et non pas le mien. »«
Quel est cet ami ?» reprit le clerc. « Cela est une question qu'il est plus facile de faire que d'y répondre. »«
Quel ami ? » ?»« Eh bien, j'y songe. C'est Edmond, le garde de qui je t'ai parlé tout à l'heure. »«
Garde aussi honnête que tu es pieux ermite, » répliqua le chevalier. « Je n'en doute pas. Mais ouvre-lui la porte avant qu'il fasse sauter les gonds. »
Cependant, les chiens qui avaient aboyé à qui mieux mieux au commencement du bruit extérieur semblaient maintenant avoir reconnu la voix de celui qui était dehors, car, changeant tout à coup d'allure, ils se mirent à gratter et à gémir à la porte comme pour solliciter son admission. L'ermite tira promptement les verrous pour laisser pénétrer Locksley et ses deux compagnons.
« Comment, ermite ? » demanda le yeoman dès qu'il vit le chevalier. « Quel bon compagnon as-tu là ?»«
C'est un frère de notre ordre, » répondit le clerc en secouant la tête. « Nous avons passé la nuit à dire nos oraisons. »«
C'est un moine de l'église militante, je pense, » répondit Locksley.
« Et il y en a d'autres dehors. Je te dis, frère, que tu dois déposer le rosaire et prendre le gourdin. Nous aurons besoin de nos joyeux compagnons, clercs ou laïcs. Mais... » ajouta-t-il en le prenant à part. « Es-tu fou de laisser entrer un chevalier qui t'est inconnu ? As-tu oublié nos statuts ?»«
Inconnu ? » reprit hardiment le frère. « Je le connais aussi bien que le mendiant connaît son escarcelle. »«
Et quel est son nom ? » demanda Locksley.
« Son nom ? » dit l'ermite. « Son nom est Sir Antoine de Scrablestone. Est-ce que je boirais avec un homme sans savoir son nom ?»
« Tu as bu plus qu'il ne faut, frère, » dit le forestier, « et je crains aussi que tu n'aies parlé plus qu'il n'aurait convenu. »«
Brave yeoman, » dit le chevalier allant vers lui, « ne te fâche pas contre mon joyeux hôte. Il n'a fait que m'offrir une hospitalité que je l'eusse forcé de m'accorder s'il l'eût refusé. »«
Toi, me forcer ?» dit le frère. Attends seulement que j'aie échangé cette robe grise contre un habit vert. Et si je ne fais pas résonner 12 fois mon bâton sur ton crâne, je ne suis ni vrai clerc, ni bon forestier. » Tout en parlant ainsi, il enleva sa robe et apparut en pourpoint et en caleçon collant de cuir noir, par-dessus lesquels il passa rapidement un habit vert et une culotte de la même couleur. « Aide-moi à boutonner mes pointes, » dit-il à Wamba, « et tu auras une coupe de vin sec pour ta peine. »«
Grand merci de ton vin, » dit Wamba, « mais crois-tu qu'il me soit permis de métamorphoser un saint ermite en simple forestier ?»
« Ne crains rien, » reprit l'ermite. « Je n'ai qu'à confesser les péchés de mon habit vert à mon froc de frère gris, et tout sera bien. »«
Amen, » répondit le bouffon. « Un pénitent en drap fin doit avoir un confesseur en drap grossier, et ton froc pourra absoudre mon pourpoint bariolé par-dessus le marché. »
Ce disant, il prêta aide au frère pour lier le nombre interminable de ses pointes, comme on appelait alors les lacets qui attachaient la culotte au pourpoint. Tandis qu'ils étaient ainsi occupés, Locksley prit le cavalier à part et lui dit
« Ne le niez pas, messire chevalier, vous êtes celui qui a décidé la victoire à l'avantage des Anglais contre les étrangers le second jour du tournoi à Asby. »
« Et que s'ensuit-il, si vous avez deviné juste, mon brave yeoman ?» reprit le chevalier.
« En ce cas, je pourrais vous considérer, » répliqua le yeoman, « comme l'ami du parti le plus faible. »«
Tel est au moins le devoir d'un vrai chevalier, » répondit le noir fainéant, « et je ne voudrais pas qu'on eût des raisons de penser autrement de moi. » »«
Mais pour le projet que j'ai en vue, » dit le yeoman, « vous devez être aussi bon anglais que bon chevalier. » Car ceux dont j'ai à vous parler doivent certes intéresser tous les honnêtes gens, mais plus spécialement un vrai fils de l'Angleterre.
Vous ne sauriez parler à personne, reprit le chevalier, à qui l'Angleterre et la vie de tous les Anglais puissent être plus chers qu'à moi.
Je voudrais volontiers le croire, dit le forestier, car jamais ce pays n'a eu autant besoin d'être soutenu par ceux qu'il aime. Écoutez-moi. Et je vous parlerai d'une entreprise dans laquelle, si vous êtes vraiment ce que vous paraissez être, vous pourrez prendre une part honorable. Une bande de misérables, sous le déguisement de gens meilleurs qu'eux, se sont emparés de la personne d'un noble anglais, appelé Cédric le Saxon, ainsi que de sa pupille et de son ami Athelstan de Coningsbourg, et les ont transportés dans un château de cette forêt appelé Torquilston. Je vous demande si en bon chevalier, en véritable anglais, vous voulez nous aider dans leur délivrance.
« Mon vœu m'oblige à le faire, » répliqua le chevalier. « Mais je désirerais bien savoir qui vous êtes, vous qui sollicitez mon secours en leur faveur. »
« Je suis, » dit le forestier, « un homme sans nom, mais je suis l'ami de mon pays et de ceux qu'il aime. » « Vous devez, pour le moment, vous contenter de cette explication, d'autant plus que vous-même désirez garder l'incognito. Croyez cependant que ma parole, une fois engagée, est aussi inviolable que si je portais des éperons d'or. »«
Je le crois, » dit le chevalier. « Je suis habitué à étudier les hommes, et sur votre figure, je lis la probité et le courage. Je ne vous questionnerai donc plus. » Mais je vous aiderai à rendre la liberté à ces captifs opprimés. Et cela fait, j'espère que nous nous séparerons, nous connaissant mieux et plus satisfaits l'un de l'autre. »
Ainsi, dit Wamba à Goethe, car après que le clerc eut été entièrement équipé, le bouffon s'était approché de l'autre bout de la salle, et ainsi avait entendu la fin de la conversation.
« Ainsi, nous avons trouvé un nouvel allié. J'espère que la valeur du chevalier sera d'un métal plus vrai que la religion de l'ermite ou la probité du yeoman. Car ce Locksley a bien la mine d'un fief et voleur de daims, et le prêtre, celle d'un franc hypocrite. »
« Retiens ta langue, Wamba, » murmura Goethe. « Il en est peut-être ainsi que tu le dis,
Mais quand le diable cornu viendrait m'offrir son aide pour rendre à la liberté Cédric et Lady Rowena, je crains bien de n'avoir pas assez de religion pour refuser l'offre du démon et lui ordonner de s'en aller. » Le clerc était maintenant complètement accoutré en yeoman, avec l'épée et le bouclier, l'arc et le carquois, et une grande pertuisane sur l'épaule. Il sortit de sa cellule en précédant les assistants, et après avoir soigneusement fermé la porte, il déposa la clé sous le seuil. « Es-tu en état de faire un bon service, frère ?» dit Locksley. « Ou bien la cruche te court-elle encore dans la tête ?»«
Il ne faut pour y mettre bon ordre qu'un coup d'eau à la fontaine de Saint-Dunstan, » répondit le clerc.
Il y a un peu d'éblouissement dans ma cervelle et d'incertitude dans mes jambes, mais vous allez voir disparaître tout cela. » En achevant ces mots, il marcha vers le bassin de pierre, dans lequel les eaux de la fontaine, en tombant, formaient des globules qui scintillaient au clair de la lune. Il en avala un si long trait qu'on aurait dit qu'il voulait épuiser la source.
« Quand est-ce que tu as bu un pareil coup d'eau, Saint-Clair de Copmanhurst ?» demanda le chevalier noir.
Pas depuis que mon muide de vin fut mis en perse par quelque fraudeur et laissa couler la liqueur par cette ouverture, répondit le frère, en ne me laissant ainsi à boire que l'eau de la source de mon patron. Puis, plongeant sa tête et ses mains dans la fontaine, il lava et enleva toutes les traces du réveillon nocturne. Ainsi rafraîchi et dégrisé, le joyeux moine fit tourner en l'air sa lourde pertuisane au-dessus de sa tête avec trois doigts, comme s'il balançait un roseau, s'écriant en même temps « Où sont-ils donc, ces vils ravisseurs qui enlèvent les filles contre leur gré? Que le diable m'emporte si je ne suis pas homme à en assommer 12 !»«
Tu jures donc, Saint-Clair ?» demanda le chevalier noir.
« Ne me traitez plus de clair !» répliqua le moine transformé. « Par Saint-Georges et le dragon, je ne suis un tonsuré que tant que j'ai le froc sur le dos. Quand je suis encaissé dans mon habit vert, je bois, je jure et je courtise la fille, comme le plus gaillard forestier du West Riding. »
« Viens donc, frère bavard, » dit Locksley, « et ne parle pas tant. Tu fais autant de bruit que tout un couvent une nuit de veille, après que le père abbé s'est couché. « Venez, vous aussi, mes maîtres, ne restez pas à causer. Venez, vous dis-je, il nous faut rassembler toutes nos forces, et nous n'en aurons que trop peu si nous devons livrer assaut au château de Reginald Front de Bœuf. »«
Comment ? C'est Front de Bœuf ? » dit le chevalier noir, « qui a ainsi arrêté sur la voie publique les loyaux sujets du roi. Est-il devenu voleur ou oppresseur ?»«
Oppresseur, il le fut toujours. » dit Locksley.
Et quant à être voleur, dit le moine, je doute qu'il ait jamais été de moitié aussi honnête homme que bien des voleurs de ma connaissance.
Avance donc, moine, et tais-toi, dit le yeoman. Tu ferais mieux de nous guider vers l'endroit du rendez-vous que de dire ce qui ne doit pas être dit, par respect pour la prudence et le décorum.
Chapitre 21. Pendant qu'on prenait ces mesures en faveur de Cédric et de ses compagnons, les hommes armés qui avaient saisi ces derniers entraînaient leurs captifs vers l'endroit fortifié où ils comptaient les emprisonner. Mais l'obscurité se faisait rapidement, et les sentiers de la forêt ne paraissaient qu'imparfaitement connus des maraudeurs. Ils furent donc obligés de faire plusieurs longues haltes et de revenir une fois ou deux sur leurs pas, pour reprendre la direction qu'ils voulaient suivre. La nuit s'était écoulée, et l'aube avait paru avant qu'ils se fussent bien assurés qu'ils étaient dans le bon chemin. Mais la confiance revint avec la lumière, et la cavalcade chemina dès lors avec rapidité. Pendant ce temps, le dialogue suivant eut lieu entre les deux chefs des bandits.
« Il est temps que tu nous quittes, Sire Maurice, » dit le Templier à De Bracy,
afin de préparer la seconde partie de l'expédition. Tu dois, tu le sais bien, remplir le rôle de chevalier libérateur.
« J'ai changé d'avis, » dit De Bracy,
et je ne te quitterai pas que l'objet de notre stratagème ne soit mis en sûreté dans le château de Front de Bœuf. Là, je paraîtrai devant Lady Rowena sous ma forme naturelle, et j'espère qu'elle attribuera à la véhémence de ma passion ce qu'il y a eu de violence et de brutalité dans ma conduite.
Et qu'est-ce qui t'a fait changer de plan, de Bracy ? Demanda le chevalier du Temple.
Cela ne te regarde en rien, répondit son compagnon.
J'espère toutefois, sire chevalier, dit le Templier, que ce revirement de projet ne provient d'aucun soupçon contre mon honneur, ainsi que Fitzurse s'était efforcé de vous en faire concevoir.
Mes pensées sont à moi, répondit de Bracy. Le diable rit, dit-on, quand un voleur en vole un autre, et nous savons que, quand même il lancerait le feu et le soufre, jamais il n'empêcherait un Templier de suivre son penchant.
Ou le chef d'une compagnie franche, répondit le Templier, de craindre, de la part d'un ami et d'un camarade, la mauvaise foi qu'il pratique envers les autres.
Ceci est une récrimination stérile et dangereuse, répondit de Bracy. Il suffit de dire que je connais les mœurs des chevaliers de l'ordre du Temple, et je ne veux pas te donner l'occasion de me duper en t'emparant de la belle proie pour laquelle j'ai couru tant de risques.
Bah, répliqua le Templier, qu'as-tu à craindre? Tu connais les vœux de notre ordre.
Parfaitement, dit de Bracy, et aussi la manière dont ils sont observés. Allons, messire Templier, les lois de la galanterie sont libéralement interprétées en Palestine, et en cette occasion je ne veux rien confier à votre conscience.
Sache donc la vérité, dit le Templier, je me soucie peu de ta belle aux yeux bleus. Il y en a dans ces prisonnières une autre qui sera pour moi une meilleure compagne.
Quoi ? Tu voudrais déroger jusqu'à la suivante ? Dit de Bracy.
Non, sire chevalier, reprit le Templier avec fierté. Je ne m'abaisserai pas jusqu'à la suivante. J'ai remarqué parmi les captives une perle aussi belle que la tienne.
Par la messe, tu veux dire la belle juive ? S'écria de Bracy.
Et quand ce serait ? Répondit Bois Guilbert. Qui s'y opposera ?
Personne que je sache, dit de Bracy, à moins que ce ne soit ton vœu de célibat ou le frein de ta conscience qui t'interdise une intrigue avec une juive.
Et quant à mon vœu, s'écria le Templier, notre grand maître m'a accordé une dispense, et pour ce qui est de ma conscience, un homme qui a tué 300 sarrasins n'a pas besoin de raconter toutes ses peccadilles, comme une fille de village se confessant la veille du vendredi saint.
Tu connais mieux que personne les privilèges, dit de Bracy. Cependant, j'aurais juré que tes pensées se fussent portées sur les sacs d'argent du vieil usurier plutôt que sur les yeux noirs de sa fille.
Je puis admirer les uns et les autres, dit le Templier. D'ailleurs, le vieux juif n'est que demi-bénéfice. Il faut que je partage ses dépouilles avec Front de Bœuf, qui ne nous prêtera pas pour rien son château. Non. Je veux quelque chose que je puisse considérer comme exclusivement à moi dans l'escapade que nous faisons, et j'ai jeté mon dévolu sur la belle juive comme mon butin exclusif. Ainsi donc, maintenant que tu connais mon projet, tu vas reprendre ton premier plan, n'est-ce pas? Car tu n'as rien à craindre, tu le vois, de mon intervention.
Non, répliqua de Bracy, je veux rester auprès de ma capture. Ce que tu dis est plus que vrai, mais je n'aime pas les privilèges qui s'acquièrent par la dispense du grand maître, ni le mérite qui dérive du massacre de 300 sarrasins. Vous avez un trop bon droit à la libre absolution pour vous montrer scrupuleux sur les petites fautes. Pendant ce dialogue, Cédric cherchait à arracher de ceux qui le gardaient un aveu de leur caractère et de leurs intentions.
« Vous devez être des Anglais, » dit-il, « et cependant, juste ciel, vous faites une proie de vos compatriotes comme si vous étiez de vrais Normands. Vous devez être mes voisins, et dans ce cas, des amis. Car quels sont mes voisins anglais qui aient des raisons pour être autre chose que des amis?
Je vous dis, Yeomen, que ceux-là même d'entre vous qui ont été marqués comme outlaws ont été protégés par moi, car j'ai plaint leur misère et j'ai maudit l'oppression de leur noble tyran. Que voulez-vous de moi? Et en quoi cette violence peut-elle vous servir? Dans vos actions, vous êtes pire que des brutes, et vous les imitez jusque par votre mutisme. » Mais ce fut en vain que Cédric interrogea ses gardes, qui avaient de trop bonnes raisons de garder le silence pour être amenés à le rompre, soit par la colère de leur prisonnier, soit par ses arguments. Ils continuèrent donc à l'entraîner, voyageant d'un pas rapide, jusqu'à ce que, au bout d'une avenue de grands arbres, apparut Torquilston, le château poudreux et antique de Reginald Front de Bœuf. C'était une forteresse d'une grandeur moyenne qui se composait d'un donjon ou d'une tour carrée, grande et élevée, environnée de bâtiments d'une moindre hauteur, autour desquels il y avait une cour intérieure. Un fossé profond, rempli d'eau provenant d'un ruisseau voisin, faisait le tour du mur extérieur. Front de Bœuf, à qui son caractère attirait souvent des querelles avec ses ennemis, avait ajouté considérablement à la force de son château en bâtissant des tours sur le mur extérieur, de manière à le flanquer à chaque angle. L'entrée, comme c'était l'ordinaire dans les châteaux de cette époque, était pratiquée dans une haute tour, terminée et défendue par une petite tourelle à chaque coin. Cédric ne vit pas plutôt les tourelles du château de Front de Bœuf, élevant leurs créneaux gris et moussus qui brillaient au soleil levant au-dessus des bois d'alentour, qu'il comprit sur le champ toute la gravité de la situation. « J'ai été injuste, dit-il, envers les voleurs et les outlaws de ces forêts, en supposant que ces bandits appartinssent à leurs troupes. J'aurais pu tout aussi bien confondre les renards de ces broussailles avec les loups dévorants de la France. Dites-moi, chien, est-ce ma vie ou mes richesses que recherche votre maître? Est-ce trop que deux Saxons? Moi et le noble Athelstan, nous possédions des terres dans le pays qui fut autrefois le patrimoine de notre race. Mettez-nous donc à mort et complétez votre attentat en nous prenant la vie, comme vous avez commencé par nous ravir la liberté. Si le Saxon Cédric ne peut délivrer l'Angleterre, il veut mourir pour elle. Dites à votre maître que je le prie seulement de renvoyer Lady Rowena en honneur de et sûreté. C'est une femme, et il n'a pas besoin de la craindre, car avec nous mourra tout ce qui oserait combattre pour sa cause. » Les gardes restèrent aussi muets à cette apostrophe qu'à la précédente. On était arrivé devant la porte du château. De Bracy sonna du cor à trois reprises, et les archers et arbalétriers qui avaient paru sur le mur à l'approche de la petite troupe se hâtèrent de baisser le pont-levis et de l'introduire. Les prisonniers furent invités par leurs gardes à mettre pied à terre, et on les conduisit dans un appartement où un repas leur fut promptement servi. Mais personne ne se sentit le moindre désir d'y toucher, si ce n'est Athelstan. Au reste, le descendant du confesseur n'eut guère le temps de faire honneur à la bonne chère qu'on avait placée devant lui, car les gardes lui donnèrent à entendre, ainsi qu'à Cédric, qu'on devait les enfermer dans une chambre éloignée de celle de Rowena. La résistance était impossible, et il fut obligé de se rendre dans une grande salle, dont la voûte reposait sur des colonnes grossières d'origine saxonne, et qui ressemblait à ces réfectoires des chapitres de moines que l'on voit encore dans les parties antiques de nos plus vieux monastères. Lady Rowena fut ensuite séparée de ses serviteurs et conduite avec courtoisie, il est vrai, mais toujours sans être consultée en rien, dans un appartement écarté. La même distinction alarmante fut accordée à Rebecca, malgré les supplications de son père, qui offrit même de l'argent dans cette détresse extrême pour qu'il lui fût permis de rester avec sa fille. « Vil mécréant !» lui répondit un de ses gardes. « Quand tu auras vu ton cachot, tu ne souhaiteras plus que ta fille le partage. » Et sans plus de préambule, le vieux juif fut entraîné rudement dans une direction opposée à celle des autres prisonniers. Les domestiques, après avoir été fouillés et désarmés avec soin, furent confinés dans une autre partie du château, et Rowena elle-même fut privée de la consolation qu'elle aurait trouvée dans la compagnie de sa suivante Elgitha. L'appartement dans lequel les chefs saxons étaient enfermés, car c'est sur eux d'abord que se fixe notre attention, bien qu'en ce moment converti en une espèce de corps de garde, avait été jadis la grande salle du château. Cette chambre était maintenant abandonnée à de plus vils usages parce que le seigneur actuel, entre autres additions à la sécurité, à la commodité et à la beauté de sa baronnie, avait construit une nouvelle et vaste salle dont le plafond voûté était soutenu par des colonnes plus légères et plus élégantes et décoré avec le goût plus châtié que les Normands avaient déjà introduit dans leur architecture. Cédric parcourut l'appartement de long en large, réfléchissant avec indignation sur le passé et le présent, tandis que l'apathie de son compagnon Athelstan, remplaçant la patience et la philosophie, servait à le défendre contre toute chose, même contre les inconvénients de la situation. Et il les sentait si peu que ce furent seulement les plaintes amères et passionnées de Cédric qui parvinrent à lui tirer quelques paroles de la bouche. « Oui, » dit Cédric, parlant moitié à lui-même et moitié à Athelstan. « C'est dans cette salle même que mon père assista au banquet de Thorkil Wolfganger, lorsqu'il reçut le vaillant et malheureux Harold, lequel s'avançait alors contre des Norvégiens qui s'étaient unis aux rebelles Tostig. C'est dans cette salle que Harold fit sa magnanime réponse à l'ambassadeur de son frère révolté. J'ai souvent entendu mon père s'animer en racontant cette histoire. L'envoyé de Tostig fut admis, et cette vaste salle put à peine contenir la foule des nobles chefs saxons qui buvaient le vin rouge comme du sang autour de leur monarque. J'espère, dit Athelstan, un peu touché par cette dernière partie du discours de son ami, qu'ils n'oublieront pas de nous envoyer du vin et des provisions à midi. Nous avons eu à peine le temps de respirer quand nous avons déjeuné. Et jamais la nourriture ne me profite quand je mange immédiatement après être descendu de cheval, bien que les médecins recommandent ce régime. Cédric continua son histoire sans faire attention à cette observation incidente de son ami. L'envoyé de Tostig, dit-il, s'avança dans la salle sans être déconcerté par la contenance menaçante de tous ceux qui l'entouraient, jusqu'à ce qu'il vînt s'incliner devant le trône du roi Harold. « Quelles sont les conditions, dit-il, seigneur et roi, que ton frère Tostig doit attendre de toi, s'il sollicite la paix et dépose les armes en tes mains ?»« L'amour d'un frère, s'écria le généreux Harold, et le beau comté de Northumberland. » « Mais si Tostig accepte ces conditions, continua l'envoyé, quelles seront les terres que vous assignerez à son fidèle allié Hardrada, roi de Norvège ?»« 7 pieds de terre anglaise, répondit fièrement Harold, ou, comme on dit que Hardrada est un géant, peut-être lui en accorderons-nous 12 pouces de plus. » La salle retentit d'acclamations et on remplit les coupes et les cornes en l'honneur du Norvégien, en souhaitant qu'il fût promptement en possession de sa terre anglaise. « J'aurais pu m'adjoindre à ce toast de toute mon âme, » s'écria Athelstan, « car ma langue s'attache à mon palais. » « L'envoyé est conduit, » dit Cédric en poursuivant son récit avec animation, quoiqu'il n'intéressât pas son interlocuteur, se retira pour porter à Tostig et à son allié la réponse menaçante du frère outragé. C'est alors que les châteaux forts éloignés d'York et les rives sanglantes du Derwent furent témoins de cette lutte terrible, où, après avoir déployé une valeur suprême, le roi de Norvège et Tostig périrent l'un et l'autre avec 10 000 de leurs plus braves guerriers. Qui aurait soupçonné que le jour même où cette grande bataille fut gagnée, le même vent qui agitait les bannières triomphantes des Saxons enflait aussi les voiles normandes et les conduisait sur les côtes néfastes de Sussex. «
qui aurait soupçonné que Harold, à peu de jours de là, ne posséderait plus lui-même dans son royaume que la part que, dans sa colère, il avait assignée à l'envahisseur norvégien? Qui aurait soupçonné que vous, noble Æthelstan, que vous, issu du sang de Harold, et moi, dont le père n'était pas un des moins vaillants défenseurs de la couronne saxonne, nous serions prisonniers d'un vil normand, dans la salle même où nos ancêtres ont tenu cet illustre banquet.
C'est assez triste, reprit Æthelstan, mais j'espère qu'ils exigeront de nous une rançon modérée. Après tout, ils ne peuvent avoir l'intention de nous laisser mourir tout à fait de faim. Et cependant, bien qu'il soit midi, je ne vois pas les préparatifs de notre dîner. Regardez à la fenêtre, noble Cédric, et jugez au rayon du soleil s'il n'est pas midi.
Cela se peut, répondit Cédric, mais je puis regarder ces vitraux coloriés sans qu'ils fassent naître chez moi d'autres réflexions que celles qui s'attachent au moment actuel et à ses privations. Lorsque cette fenêtre fut construite, mon noble ami, nos pères courageux ne connaissaient ni l'art de fabriquer le verre, ni celui de le colorier. Le père de Wolfgang, dans son orgueil, fit venir un artiste de Normandie pour décorer sa grande salle avec cette nouvelle espèce de peinture héraldique qui transforme la lumière dorée du jour béni par Dieu en une foule de couleurs capricieuses et fantastiques. L'étranger arriva ici pauvre, mendiant, obséquieux et rampant, prêt à ôter son bonnet devant le dernier valet de la maison. Il s'en retourna, repu et orgueilleux, pour raconter à ses rapaces compatriotes la richesse et la simplicité de nos nobles saxons. Folie, Æthelstan, présagée autrefois et prévue par les successeurs de Hengist et par ses tribus hardies qui conservèrent la pureté de leurs mœurs. Nous avons fait de ces étrangers nos amis de cœur, nos serviteurs et nos confidents. Nous avons emprunté leurs artistes et leurs arts et méprisé l'honnête rusticité et la vigueur avec lesquelles nos braves ancêtres se sont maintenus. Et nous nous sommes laissés énerver par le luxe des Normands longtemps avant de tomber sous leurs armes. Ah, combien nos modestes repas, faits en paix et liberté, était supérieur aux délicatesses luxueuses dont la passion nous a livrés comme des esclaves aux conquérants étrangers.
« Je regarderai, répliqua Æthelstan, le repas le plus modeste comme un luxe en ce moment. Et je m'étonne, noble Cédric, que vous ayez si exactement présent à la mémoire les faits écoulés et que vous paraissiez oublier l'heure même du repas. »
« C'est perdre son temps, » murmura Cédric à part et avec impatience, « de lui parler d'autre chose que ce qui intéresse son appétit. L'âme de Hardy Canute s'est emparée de lui et il ne connaît d'autre plaisir que de s'emplir, s'enivrer et d'en vouloir encore. Hélas !» continua-t-il en regardant Æthelstan avec compassion. « Pourquoi un esprit si inerte se trouve-t-il enfermé dans une forme si belle ? Hélas, faut-il qu'une entreprise aussi grande que celle de la régénération de l'Angleterre doive reposer sur un pivot si défectueux? Unie à Rowena, à la vérité, l'âme de celle-ci, plus généreuse et plus noble, pourra faire éclore de meilleurs sentiments qui sommeillent encore dans son cœur. Mais comment cela aura-t-il lieu tant que Rowena, Æthelstan et moi, nous resterons prisonniers de ce pillard brutal ? Et on ne nous a peut-être privés de notre liberté que par la conscience des dangers que nous pourrions susciter à la puissance usurpée sur la nation anglaise. » Pendant que le Saxon était plongé dans ses pénibles réflexions, la porte de la prison s'ouvrit et laissa pénétrer un écuyer tenant à la main sa baguette blanche. Ce personnage important s'avança dans la salle d'un pas grave, suivi de quatre serviteurs, portant une table couverte de plats, dont la vue et l'odeur semblèrent à Æthelstan une ample et immédiate compensation de tous les inconvénients qu'il avait essuyés. Les personnes qui escortaient le repas portaient des masques et des manteaux.
« Qu'est-ce que cette momerie ? » dit Cédric.
« Pensez-vous que nous ignorions que nous sommes prisonniers lorsque nous sommes dans le château de votre maître ?
Dites-lui, continua-t-il, voulant profiter de cette occasion pour entamer une négociation au sujet de sa liberté.
Dites à votre maître, Réginald Front-de-Bœuf, que nous ne pouvons deviner quelle raison il peut avoir de nous priver de notre liberté, si ce n'est son désir illégal de s'enrichir à nos dépens.
Dites-lui que nous cédons à sa rapacité, comme en de pareilles circonstances nous le ferions envers de véritables brigands.
Qu'il dise la rançon à laquelle il fixe notre liberté, et elle sera payée, pourvu que cette exaction soit en rapport avec nos moyens. »
L'écuyer, sans faire de réponse, salua de la tête.
« Et dites à Réginald Front-de-Bœuf, s'écria Athelstan, que je lui envoie mon cartel à mort, et que je le défie au combat à pied ou à cheval, en tous lieux assurés, à 8 jours de notre délivrance, laquelle, s'il est véritablement un chevalier, il n'osera, d'après cette sommation, ni refuser ni retarder.
« Je transmettrai votre défi à mon maître, » dit l'écuyer. « En attendant, je vous laisse à votre repas. » Ce cartel d'Athelstan fut proféré d'assez mauvaise grâce, car une énorme bouchée qui exigeait l'exercice simultané des deux mâchoires, ajoutée à son hésitation habituelle, diminua considérablement l'effet du défi audacieux qu'il contenait. Cependant, son discours fut accueilli par Cédric comme une preuve incontestable que le courage se ranimait chez son compagnon, dont l'indifférence antérieure, malgré son respect pour la naissance d'Athelstan, avait commencé de lasser sa patience. En ce moment, il lui secoua donc cordialement la main en signe d'approbation. Mais ce ne fut pas sans douleur qu'il entendit l'observation d'Athelstan qu'il combattrait 12 hommes comme Front-de-Bœuf, pourvu qu'en le faisant, il pût hâter son départ d'un donjon où l'on mettait tant d'ail dans le potage. Malgré cette récidive de sensualité, Cédric se plaça vis-à-vis d'Athelstan et fit voir bientôt que, si chez lui les malheurs de son pays pouvaient bannir le souvenir de la nourriture tant que la table était vide, cependant, du moment que les vivres reparaissaient, avec eux revenait l'appétit que ses ancêtres saxons lui avaient transmis avec leurs autres qualités. Les captifs ne jouissaient pas depuis longtemps des plaisirs de la table lorsque leur attention fut distraite de cette sérieuse occupation par le son d'un cor retentissant devant la porte d'entrée. Ce son résonna 3 fois avec autant de force que s'il eût retenti devant un château enchanté, sortant de la poitrine du chevalier prédestiné aux ordres duquel les salles, les tours, les créneaux et les tourelles de ce château devaient disparaître comme une vapeur du matin. Les Saxons s'élancèrent de la table vers la fenêtre, mais leur curiosité fut désappointée, car cette ouverture ne donnait que sur la cour du château, et le son provenait d'au-delà de l'enceinte. Néanmoins, la sommation parut avoir de l'importance, car il se manifesta sur le champ, dans le château, une sérieuse agitation. Chapitre 22. Laissons les chefs saxons retourner à leur repas, dès que leur curiosité mal récompensée leur permit d'écouter les appels de leur appétit à moitié satisfait. Car nous allons pénétrer dans la prison plus sévère d'Isaac d'York. Le pauvre juif avait été jeté à la hâte dans un cachot de la forteresse, dont le sol était à une grande profondeur en terre et très humide, étant plus bas que le fossé même. La seule lumière qui l'éclaira filtrait à travers 2 soupiraux hors de la portée de la main du prisonnier. Ces ouvertures n'admettaient, même à midi, qu'un jour faible et incertain, qui était remplacé par une obscurité complète bien avant que le château eût perdu le bienfait du soleil. Des chaînes et des fers, qui avaient servi à des captifs précédents, dont on avait redouté les efforts actifs pour s'échapper, étaient suspendus, rouillés et inoccupés, au mur de la prison. Et dans le cercle d'un de ces carcans de fer, il restait encore 2 os poudreux qui paraissait avoir appartenu autrefois à une jambe humaine, comme si le prisonnier, après y avoir péri, avait toujours enchaîné passé à l'état de squelette. À une extrémité de ce réduit horrible était un grand gril, au-dessus duquel on voyait plusieurs barres de fer croisées que la rouille avait à moitié rongées. Toute l'apparence de ce cachot aurait pu épouvanter un cœur plus ferme que celui d'Isaac, qui néanmoins se trouva plus calme sous la pression d'un danger imminent qu'il n'avait paru l'être lorsqu'il était affecté par des terreurs dont la cause était encore éloignée et incertaine. Les amateurs de la chasse prétendent que le lièvre est en proie à une agonie plus terrible pendant la poursuite des lévriers que lorsqu'il se débat entre leurs griffes. Il est donc probable que les Juifs, par suite de leurs craintes fréquentes en toute occasion, avaient l'esprit en quelque sorte préparé à tous les actes de tyrannie qu'on pouvait leur infliger, si bien qu'aucune agression, une fois qu'elle était accomplie, ne pouvait amener chez eux cette surprise qui, de toutes les propriétés de la terreur, est celle qui anéantit le plus. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'Isaac se trouvait dans une situation aussi périlleuse. Il avait donc l'expérience pour le guider, et il pouvait espérer que cette fois, comme jadis, il serait délivré des mains de ses oppresseurs. Il possédait surtout l'opiniâtre inflexibilité de sa nation, et cette résolution constante avec laquelle des Israélites se sont soumis si fréquemment aux maux les plus extrêmes que la tyrannie et la violence aient pu appeler sur eux, plutôt que de satisfaire la cupidité de leurs tyrans en souscrivant à leurs extorsions. Dans cette disposition de résistance passive, ayant ses vêtements ramassés sous lui pour garantir ses membres de l'humidité, Isaac était assis dans un coin de son cachot, où, les mains croisées, les cheveux et la barbe en désordre, son manteau fourré et son grand bonnet éclairé par la lumière incertaine du soupirail, il eût présenté un sujet d'étude à Rembrandt, si ce peintre célèbre eût existé à cette époque. Le juif resta dans la même position pendant près de 3 heures, au bout desquelles on entendit des pas sur les marches de l'escalier conduisant au cachot. Les verrous grincèrent, les gonds gémirent, quand le guichet s'ouvrit, et Réginald Front de Bœuf, suivi des 2 esclaves sarrasins du Templier, parut dans la prison. Front de Bœuf, homme grand et fort, dont la vie s'était passée dans les guerres publiques ou dans les querelles et les disputes particulières, et qui n'avait reculé devant aucun moyen d'étendre son pouvoir féodal, tenait de la nature des traits qui répondaient à son caractère et qui exprimaient fortement les passions féroces et diaboliques de son âme. Les cicatrices dont son visage était sillonné eussent excité sur des traits d'un plus beau modèle la sympathie et le respect qui sont dus à la valeur honorable. Mais chez un homme comme Front de Bœuf, elles ne faisaient qu'ajouter à la férocité de son visage et à la terreur que sa présence inspirait. Ce redoutable baron était vêtu d'un pourpoint de cuir collant sur son corps, et ce pourpoint était usé et souillé par le frottement de sa cuirasse. Il n'avait d'autre arme qu'un poignard fixé à sa ceinture, lequel servait de pendant à un trousseau de clés rouillées attaché de l'autre côté. Les esclaves noirs qui accompagnaient Front de Bœuf s'étaient dépouillés de leurs vêtements magnifiques et avaient endossé des jaquettes et des pantalons en toile grossière. Les manches retroussées au-dessus du coude, comme des bouchers qui vont entrer en fonction aux abattoirs, chacun d'eux tenait à la main un petit panier, et dès qu'on fut entré dans le cachot, ils s'arrêtèrent à la porte jusqu'à ce que Front de Bœuf l'eût refermé lui-même soigneusement à double tour. Ayant pris cette précaution, il s'avança lentement dans le cachot, se dirigeant vers le juif, les yeux fixés sur lui, comme s'il voulait le paralyser de son regard, comme certains animaux, dit-on, fascinent leur proie. Il parut en effet que le regard morne et sombre de Front de Bœuf exerçait une partie de cette puissance fascinatrice sur son malheureux captif. Le juif, resté accroupi, la bouche béante et les yeux attachés sur le sauvage baron, éprouvait un sentiment de terreur si réel que son corps semblait littéralement s'affaisser et se rapetissait sous le regard fixe et fatal du féroce Normand. Le malheureux Isaac perdit non seulement le pouvoir de se lever et de faire le salut que lui conseillait sa terreur, mais il ne put même ôter son bonnet ni proférer un seul mot de supplication, tant son agitation était forte, par la conviction qu'il avait que les tortures et la mort planaient sur sa tête. D'un autre côté, la stature imposante du Normand semblait se dilater et s'élargir comme celle de l'aigle qui déploie ses ailes au moment de fondre sur sa proie sans défense. Il s'arrêta à trois pas de l'angle où le malheureux juif s'était pour ainsi dire blotti afin d'occuper le moins d'espace possible et il fit signe à l'un des esclaves de s'approcher. Le noir satellite s'avança par conséquent et, tirant de son panier une grande balance et plusieurs poids, il les déposa aux pieds de Front de Bœuf, puis il se retira à cette distance respectueuse où se tenaient déjà ses compagnons. Les mouvements de ces hommes étaient lents et solennels, comme si leur âme était agitée par quelque pressentiment d'horreur et de cruauté. Front de Bœuf ouvrit lui-même le drame en s'adressant ainsi à son captif. Très maudit chien d'une race maudite, dit-il, réveillant de sa voix creuse et triste les mornes échos du souterrain. Vois-tu cette balance ? Le malheureux juif répondit par une faible affirmation. Dans cette même balance, tu vas me peser, dit l'implacable baron, 1000 livres d'argent, selon les justes poids et mesures de la tour de Londres. Saint Abraham ! Répondit le juif, recouvrant sa voix par l'extrémité même de son danger. « L'homme a-t-il jamais entendu une pareille demande ? Qui jamais a entendu, même dans un conte de ménestrel, parler d'une somme comme 1000 livres d'argent ? Quel œil humain fut jamais réjoui par la vision d'une telle masse de trésors ? Ce n'est pas dans les murs d'York, si tu saccageais ma maison et celle de toute ma tribu, que tu trouverais le dixième de cette énorme somme d'argent dont tu parles.
Je suis raisonnable, répondit Front de Bœuf, et si l'argent est rare, je ne refuse pas de l'or, au taux d'un marque d'or pour chaque 6 livres d'argent.
Et si tu fais droit à ma demande, tu délivreras ta carcasse de mécréant d'un châtiment tel que jamais ton cœur n'aurait pu le concevoir.
« Ayez pitié de moi, noble chevalier !» s'écria Isaac.
« Je suis vieux, pauvre et sans défense. Il serait indigne de vous de triompher de moi. Ce n'est qu'une misérable action d'écraser un vermisseau. »«
Tu peux être vieux, » reprit le chevalier. « Cela n'accuse que la folie de ceux qui t'ont permis de vieillir dans l'usure et la tromperie. Tu peux être faible, car le juif n'a jamais ni cœur ni force. » Mais l'on sait bien que tu es riche.
Je te jure, noble chevalier, dit le juif, par tout ce que je crois et par tout ce que nous croyons en commun.
Ne te parjure pas, dit le Normand en l'interrompant, et prends garde que ton opiniâtreté ne décide de ton sort avant que tu aies vu et bien considéré le destin qui t'attend.
Ne pense pas que je te parle seulement pour exciter ta terreur et profiter de la basse couardise que tu as héritée de ta tribu. Je te jure, par ce que tu ne crois pas, par l'évangile que notre Église enseigne et par les clés qui lui sont données pour lier et délier, que mon dessein est implacablement arrêté. Ce cachot n'est pas propre aux plaisanteries. Des captifs 10 000 fois plus distingués que toi sont morts entre ces murailles. Et jamais leur sort n'a été connu. Mais à toi, l'on réserve une longue et lente agonie, auprès de laquelle la leur était un enivrement. »
Ici, il fit de nouveau signe aux esclaves de s'approcher et leur parla à l'écart dans leur propre langue, car lui aussi avait été en Palestine, où peut-être il avait appris son rôle inhumain. Les Sarrasins tirèrent de leur panier une certaine quantité de charbon de bois, un soufflet et une bouteille d'huile. Pendant que l'un d'eux battait le briquet et faisait de la lumière, l'autre étala le charbon sur le grill rouillé dont nous avons déjà parlé et commença de faire jouer le soufflet
jusqu'à ce que le combustible fût devenu une fournaise rougeâtre.
« Vois-tu, Isaac, continua Front de Bœuf, cette rangée de barres de fer au-dessus des charbons ardents. Sur cette couche brûlante, tu seras étendu, dépouillé de tes vêtements, comme si tu allais te reposer sur un lit de duvet. Un de ses esclaves entretiendra le feu sous toi, tandis que l'autre arrosera tes misérables membres avec de l'huile, de peur que ta chair frémissante ne brûle trop vite. Maintenant, choisis entre ce lit ardent et le paiement de 1000 livres d'argent, car, par la tête de mon père, tu n'as pas d'autre alternative.
« C'est impossible ! » s'écria le malheureux juif. « Il est impossible que votre intention soit réelle. Le bon Dieu de la nature n'a jamais créé un cœur capable d'exercer pareille cruauté. »«
Ne t'y fie pas, Isaac, » dit Front de Bœuf. « Ce serait là une erreur fatale.
Penses-tu que, moi, qui ai vu saccager une ville dans laquelle des milliers de mes compatriotes chrétiens ont péri par l'épée, par l'eau et par le feu, penses-tu que je recule devant mon but à cause des cris et du vacarme d'un seul misérable juif? Penses-tu que ces esclaves bronzés, qui ne connaissaient ni loi, ni pays, ni conscience, rien que la volonté de leur maître, ces hommes qui emploient le poison, le bûcher, le poignard ou la corde à mon moindre signe, penses-tu qu'ils auront pitié, eux qui ne connaissent pas même la langue dans laquelle on les implore? Sois raisonnable, vieillard, décharge-toi d'une portion de tes richesses superflues. Remets entre les mains d'un chrétien une partie de ce que tu as acquis par l'usure, que tu as pratiqué sur ceux de sa religion. Ton astuce aura bientôt gonflé de nouveau ta bourse aplatie, mais ni médecin ni drogue ne pourront rétablir ta peau et ta chair brûlée une fois que tu auras été étendu sur ces barres. Compte le prix de ta rançon, te dis-je, et réjouis-toi que par ce sacrifice tu puisses te racheter et sortir d'un cachot d'où peu de victimes sont sorties vivantes pour révéler ses secrets. Je ne veux plus perdre mes paroles avec toi. Choisis entre ton vil métal et ta chair et ton sang. Il sera fait selon ton choix. Qu'Abraham, que Jacob et que tous les pères de notre peuple me soutiennent, dit Isaac. Je ne puis faire de choix, parce que je n'ai pas les moyens de satisfaire à votre demande exorbitante.
Saisissez-le, esclave, et dépouillez-le, dit le chevalier, et que les pères de sa race le secourent s'ils le peuvent.
Les Sarrasins, se laissant diriger plutôt par l'œil et le geste que par la voix du baron, s'avancèrent de nouveau, s'emparèrent du malheureux Isaac, l'enlevèrent du sol, et, le tenant entre leurs mains, attendirent un nouveau signal de l'implacable Front de Bœuf. Le malheureux juif suivait des yeux leur visage et celui de Front de Bœuf, afin d'y découvrir quelques traces de compassion. Mais celui du baron ne laissait paraître que le même sourire froid, même à moitié ironique, qui avait préludé à sa cruauté. Et les yeux sauvages des Sarrasins, roulant des regards sinistres sous leurs noirs sourcils et empruntant une expression encore plus menaçante au cercle blanc qui entoure la prunelle, trahissaient plutôt le plaisir secret qu'ils attendaient de la torture imminente que la moindre répugnance à en être les agents. Alors, le juif regarda la fournaise ardente sur laquelle on allait l'étendre, et ne voyant aucune chance de pitié dans son bourreau, sa fermeté l'abandonna. « Je paierai, dit-il, les 1000 livres d'argent. C'est-à-dire, ajouta-t-il après un moment d'hésitation, je les paierai avec le secours de mes frères, car il me faudra demander l'aumône, comme un mendiant, à la porte de notre synagogue, avant de compléter une somme aussi fabuleuse. Quand et où faudra-t-il que je la produise ?
Ici, répliqua Front de Bœuf. C'est ici qu'il faudra qu'elle soit apportée et pesée. Pesée et comptée sur les dalles de ce cachot. Penses-tu que je te laisse partir avant que ta rançon soit assurée ?
Et quelle sera ma garantie, dit le juif, que je serai libre après que cette rançon sera payée ?
La parole d'un seigneur normand, vit l'usurier. répondit Front de Bœuf. La foi d'un noble normand est plus pure que tout l'or et l'argent amassés par toi et par ta tribu.
Je vous demande pardon, noble seigneur, dit Isaac timidement. Mais pourquoi dois-je me fier absolument à la parole d'un homme qui n'a nulle confiance en la mienne?
Parce que tu ne peux pas faire autrement, juif, dit durement le chevalier. Si tu étais à cette heure dans ton comptoir à York, et si moi je sollicitais l'emprunt de tes shekels, ce serait à toi à fixer le jour du paiement et sa garantie. C'est ici mon comptoir, à moi. Ici, j'ai l'avantage sur toi, et je ne veux pas m'abaisser à te redire les conditions grâce auxquelles je te rends la liberté. »
Le juif gémit profondément.
« Accordez-moi, dit-il, au moins avec ma propre liberté, celle des compagnons avec lesquels j'ai voyagé. Ils m'ont répudié comme juif, cependant ils ont plaint ma désolation, et parce qu'ils se sont arrêtés en chemin pour me secourir, une partie de mon malheur leur est échue. De plus, ils pourront contribuer pour quelque chose à ma rançon.
Si tu veux parler de ces manants saxons qui sont là-bas, dit Front de Bœuf, leur rançon doit reposer sur d'autres conditions que la tienne. Songe à tes intérêts personnels, juif, je te donne cet avertissement, et ne te mêle pas de ceux des autres.
Je dois donc, dit Isaac, être mis en liberté seul avec mon ami blessé?
Faut-il que je recommande deux fois à un fils d'Israël, dit Front de Bœuf, de s'occuper de ses intérêts personnels et d'abandonner ceux des autres? Puisque tu as choisi, il ne reste rien à faire que de payer de ta rançon et à court délai.
Cependant, écoutez-moi, dit le juif, pour l'amour de cette richesse même que vous voudriez obtenir aux dépens de votre...
Ici, il s'arrêta, de crainte d'irriter le féroce normand. Mais Front de Bœuf ne fit que rire de cette réticence, et aida lui-même à compléter la phrase que le juif avait laissée en suspens.
« Aux dépens de ma conscience, n'est-ce pas, Isaac ?
Parle librement, je suis raisonnable, te dis-je. Je sais endurer des reproches d'un perdant, lors même que ce perdant est un juif. Tu étais moins patient, Isaac, quand tu as invoqué la justice contre Jacques, fils d'Autrel, parce qu'il t'avait traité d'usurier et de sangsu, quand tes exactions eurent dévoré son patrimoine.
« Je jure par le Talmud, s'écria le juif, qu'on a trompé votre valeur à ce sujet. Fitz d'Autrel avait tiré son poignard sur moi dans ma propre maison lorsque je le suppliais de me payer mon argent. Le terme du paiement était échu à Pâques. »
Peu m'importe ce qu'il a fait, reprit Front de Bœuf. Voici la question. Quand aurai-je mon paiement? Quand aurai-je les shekels, Isaac?
Que ma fille Rebecca se rende à York, répondit Isaac, avec votre sauf-conduit, noble chevalier. Et aussi vite comme mes chevaux pourront revenir, le trésor...
Ici, il poussa un profond gémissement. Mais il ajouta, après une interruption de quelques instants,
« Le trésor sera compté sur les dalles de ce cachot. »«
Ta fille ?» dit Front de Bœuf comme un homme étonné.
« Par le ciel, Isaac, je voudrais l'avoir su plus tôt. J'ai pensé que cette fille aux yeux noirs était ta concubine, et je l'ai donnée pour servante à Brillante Boisguibert, selon la mode des patriarches et des héros de l'Antiquité, qui, dans ces choses, nous ont montré un exemple salutaire. »
Le rugissement que poussa Isaac à cette effroyable révélation fit retentir le cachot et étourdit tellement les deux sarrasins qu'ils laissèrent échapper le juif. Il profita de cette liberté pour se jeter à terre et saisir les genoux de Front de Bœuf.
« Prenez tout ce que vous avez demandé, chevalier, prenez 10 fois davantage, réduisez-moi à la mendicité, à la ruine si vous voulez. Bien plus, percez-moi de votre poignard, grillez-moi sur cette fournaise, mais épargnez ma fille, délivrez-la en sûreté et en honneur. Comme vous êtes né d'une femme, épargnez l'honneur d'une jeune fille inoffensive. C'est l'image de ma défunte Rachel. J'avais 6 gages de son amour, elle est le seul qui me reste. Priverez-vous un vieillard isolé de sa seule consolation? Réduirez-vous un père à souhaiter que son seul enfant vivant soit à côté de sa mère morte, couché dans le tombeau de ses pères ?»«
Je voudrais, » dit le Normand s'adoucissant un peu, « l'avoir su plus tôt. Je pensais que ta race n'aimait rien que ses sacs d'argent. » »«
Ne pensez pas si mal de nous, bien que nous soyons juifs, » dit Isaac, s'empressant de profiter de ce moment de sympathie apparente. Le renard que l'on poursuit, le chat sauvage que l'on torture, aiment leurs petits. La race méprisée et persécutée d'Abraham aime aussi ses enfants.
Soit, dit Front de Bœuf, je le croirai à l'avenir, Isaac, par pitié pour toi. Mais cela ne nous sert pas maintenant. Je ne puis changer ce qui est arrivé ni ce qui doit suivre. Ma parole est engagée à mon frère d'armes, et je ne voudrais pas y manquer pour 10 juifs et juives. Et puis, pourquoi penses-tu qu'il advienne du mal à ta fille? Quand même, elle serait le butin de Boisguibert.
Il y en aura! Il faut qu'il y en ait!
S'écria Isaac en se tordant les mains avec désespoir.
Quand est-ce que les Templiers ont réservé autre chose que la cruauté aux hommes et le déshonneur aux femmes?
Chien d'infidèle! S'écria Front de Bœuf, les yeux étincelants, et n'étant pas fâché peut-être de saisir un prétexte pour se mettre en colère. « Ne blasphème pas le saint ordre des Templiers de Sion, mais songe plutôt à me payer la rançon que tu m'as promise, ou malheur à toi !»«
Scélérat et brigand !»
dit le Juif, renvoyant les insultes à son oppresseur, avec une rage que, toute impuissante qu'elle était, il ne pouvait plus contenir.
« Je ne te paierai rien, non !» Pas un penny d'argent, à moins qu'on ne délivre ma fille, en sûreté et en honneur.
Est-ce que tu es dans ton bon sens, Israélite? Demanda fièrement le Normand. Ta chair et ton sang ont-ils un charme contre le fer rougi et contre l'huile bouillante?
Je m'en moque,
dit le Juif poussé à bout par son affection paternelle. Fais ce que tu voudras.
Ma fille est ma chair et mon sang. Elle m'est plus précieuse 1000 fois que ses membres que ta cruauté menace. Je ne te donnerai pas d'argent, à moins que je ne le verse fondu dans ton gosier à vide. Non, je ne te donnerai pas un penny d'argent, nazaréen, fût-ce pour te sauver de cette profonde damnation que toute ta vie a méritée. Prends ma vie si tu veux, et va dire que le Juif, au milieu de ses tourments, a su braver un chrétien.
Nous verrons cela, dit Front de Bœuf. Car par la croix sainte, qui est l'abomination de ta tribu maudite, tu vas sentir les dernières tortures du feu et de l'acier. Dépouillez-le, esclave, et enchaînez-le sur les barres. » Malgré les faibles efforts du vieillard, les Sarrasins lui avaient déjà arraché ses vêtements supérieurs et allaient le mettre complètement à nu. Quand le son d'un cor de chasse, répété 2 fois en dehors de la forteresse, pénétra même jusqu'au fond du cachot. Et un instant après, de fortes voix se firent entendre, appelant Sir Reginald Front de Bœuf. Ne voulant pas qu'on le trouvât au milieu de son occupation diabolique, le sauvage baron fit signe aux esclaves de remettre les habits à Isaac. Et, quittant le souterrain avec ses satellites, il laissa le Juif remercier Dieu de sa délivrance, ou pleurer sur la captivité et le sort probable de sa fille, selon que ses sentiments personnels ou paternels devaient prévaloir.